229, score U 3 et 5.
Nous avons chanté « Face à face en ta lumière, nous te parlerons, Saint Agneau ». Nous pourrions lire pour commencer dans la première épître de Jean, au chapitre 3, le verset 2. 1 Jean 3, au milieu du verset 2. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Nous le verrons comme il est. Notre vie est faite de hauts et de bas, d'épreuves, de difficultés, de sujets de joie, de sujets de peine. Et puis, nous avons ce privilège de pouvoir être réunis autour du Seigneur plusieurs fois par semaine. Et puis, nous avons cette espérance qu'il vient nous chercher bientôt, que nous lui parlerons. Et ce moment de ce retour du Seigneur Jésus qui est dans le fond de notre vie, dans notre fond de pensée, mérite de s'arrêter d'une manière toute particulière. Qu'est-ce qui se passera lorsque le Seigneur viendra du ciel, où nous serons changés et nous verrons notre Seigneur? Celui que nous avons attendu durant une bonne partie de notre vie, nous le verrons, rendu semblable, nous lui parlerons. Mais quel moment extraordinaire! Essayons de nous projeter sur ce moment de cette rencontre du Seigneur Jésus avec son Église. La rencontre de l'Église qu'il a aimée avec lui-même. Ce moment extraordinaire qui n'aura lieu qu'une seule fois, mais dont les effets seront pour l'éternité, puisque nous serons toujours avec lui. Alors arrêtons-nous sur ce moment de cette rencontre. On dira, il n'y a peut-être pas beaucoup d'enseignements dans la parole qui nous parlent de cette rencontre. Et pourtant, si nous y regardons d'un peu plus près, la parole nous parle par des types, par des situations qui peuvent vraiment nous montrer quelques éléments caractéristiques de cette rencontre. Et on pourrait lire 4 passages, l'un après l'autre, qui nous décriront un caractère particulier qui sera réalisé au moment de cette rencontre. Pensons ce moment où Christ et l'Église se rencontrent, dans la nuit. Alors la première illustration, eh bien, elle se trouve dans cette rencontre d'Adam avec Ève. Et nous pouvons lire dans la Genèse, au chapitre 2, une première caractéristique de cette rencontre. Genèse 2, on peut lire le verset 23. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Une déclaration que Adam fait en voyant celle que Dieu lui donne, Ève, qui vient de lui-même, qui a la même nature, et qui lui fait dire sans aucune restriction, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Voilà une première caractéristique de cette rencontre. Le Seigneur, en voyant son assemblée, son Église, il pourra dire, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. La même nature. Alors si nous lisons un peu dans le contexte, tout ce qui illustre l'Église et la rencontre avec le Seigneur. Nous lisons tout d'abord au verset 18. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Alors nous voyons Adam qui est seul. Il y a tous ces animaux qui sont là. Et Dieu qui prend soin de lui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous transposons cela. Christ, Fils de Dieu, dans l'éternité qui a précédé le temps, était seul. Fils unique de Dieu. Et Dieu veut faire des noces pour son Fils. Il faut donc qu'il trouve une épouse. Comment ? La suite du récit, nous la lisons. Et l'Éternel Dieu forma de la terre, verset 19, tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment est-ce qu'il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondît. Voyons déjà que Adam est revêtu d'une autorité. L'autorité de pouvoir donner des noms à tous ces animaux que Dieu a créés. Preuve de cette autorité, c'est que c'est lui, l'Adam, qui donne des noms. Qu'en est-il de Christ ? Il est le chef sur toute chose. Toute l'autorité lui est donnée sur toute la création. C'est lui qui a plein droit sur tout être créé, y compris la création de l'humanité, de l'homme. Mais y a-t-il dans cette création une chose, un élément qui puisse être l'aide qui correspond à Christ. Si aucun animal ne pouvait correspondre à Adam, c'était parce que aucun n'avait la même nature. Tous étaient, il y avait l'homme d'un côté et il y avait les animaux de l'autre, pas la même nature. Il y a beau y avoir des animaux qui sont très sensibles à l'homme, un chien par exemple, il pourra montrer de l'affection, il pourra montrer de l'attachement, il pourra montrer beaucoup de choses à l'égard de son maître, mais ce ne sera jamais une aide qui correspond à l'homme. Il fallait trouver quelque chose qui corresponde vraiment à l'homme, qui soit de la même nature. Le Seigneur, Fils de l'homme, vient sur cette terre, dans cette humanité, mais cette humanité n'a pas la même nature que le Fils de Dieu qui est devenu Fils de l'homme. Bien sûr que comme homme, il était semblable à nous, mais comme Dieu, il n'avait pas du tout la même nature que nous. Il ne pouvait pas trouver dans l'homme, dans cette création, une aide qui lui corresponde. Alors, nous lisons la suite, verset 21. « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il en ferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. » Un profond sommeil pour l'homme. Et Dieu vient prendre une côte de cet homme. Il referme la place avec de la chair. Là, nous sommes admiratifs quand nous voyons ce détail de l'Écriture. Le soin que Dieu prend pour que rien ne soit laissé de côté. Il bouche la place avec de la chair. Et puis, avec cette côte, il en fait une femme. Pour l'homme. Et là, la même nature, puisqu'elle vient de l'homme. Qu'en est-il de Christ, notre Seigneur? Ce n'est pas un profond sommeil, c'est la mort. Il donne sa vie, et par sa mort, pour tous ceux qui croient, il leur donne une nouvelle nature. Nous sommes, comme croyants, une nouvelle création, participant de la nature divine. Il trouve dans ceux qu'il a sauvés, dans cette nouvelle création, il trouve quelqu'un qui a vraiment la même nature que lui. Et c'est ainsi que Adam peut dire, l'homme peut dire, cette fois, et puis on ressent ce triomphe, cette profonde joie, cette fois, enfin, voilà, elle est os de mes os et chair de ma chair. Eh bien, le Seigneur Jésus, quand il verra son Église, dans ces moments de cette rencontre, il aura devant lui celle qui fait partie de lui, parce qu'elle est issue, cette épouse, elle est issue de sa mort sur la croix. Mais quelle merveille, lorsque nous réalisons que nous sommes participants de la nature divine, une nouvelle création. Nous sommes de la même nature que Christ. Et du reste, chose frappante, c'est que quand il se présente à ses disciples le jour de sa résurrection, il dit « Voyez que c'est moi-même, un esprit n'a pas de la chair et des os comme vous voyez que j'ai. » La chair et des os. Et puis, dans l'épître aux Éphésiens, oui, on peut lire ce verset dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Au verset 29, il l'a nourri, il l'a chéri, comme aussi le Christ l'a semblé, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Oui, nous sommes de la même nature que Christ. Alors cette rencontre dans la nuée, on pourrait dire s'exclamer, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, la même nature que lui. Une deuxième caractéristique de cette rencontre de l'Église et de l'Assemblée, de l'Église et de Christ, du Seigneur. Une autre illustration dans Genèse 24. Genèse 24, nous lisons d'abord la caractéristique de cette rencontre de Rebecca avec Isaac. À la fin du verset 67, Genèse 24, verset 67, et il prit Rebecca et elle fut sa femme et il l'aima. Caractéristique de cette rencontre, l'amour. Mais nous allons y revenir. Mais voyons le contexte. Verset 61, il est dit, et Rebecca se leva et ses filles montèrent sur des chameaux, s'en allèrent après l'homme, et le serviteur prit Rebecca et s'en alla. Rebecca, type de l'Église, s'en va accompagnée, conduite par le serviteur, type du Saint-Esprit. L'Église traverse le désert, une longue marche dans la direction de son bien-aimé, de Christ. Rebecca avance, conduite par ce serviteur, le serviteur d'Abraham. Longue marche, le serviteur peut parler de toutes les gloires d'Abraham, d'Abraham, mais les gloires aussi de son fils, de Isaac. De même, le Saint-Esprit parle à l'Église de toutes les gloires de Dieu, les gloires de Christ, son époux. Et le temps passe, et puis arrive ce jour magnifique, verset 62. Or, Isaac venait d'arriver du puits de l'Akaïroï. Or, il habitait au pays du Midi. Et Isaac était sorti dans les champs pour méditer à l'approche du soir. Image du Seigneur, Isaac. Image du Seigneur qui pense à l'approche du soir. Le soir, on peut bien considérer que c'est le soir du jugement. Nous nous trouvons aujourd'hui, on peut dire, au soir du jugement. La nuit est là, proche. Le Seigneur se trouve là. Il pense à celle qu'il va venir chercher. Et nous continuons. Et il leva ses yeux et regarda. Un peu plus loin, et Rebecca leva ses yeux et vit Isaac. Le Seigneur, l'Église, on peut dire, croise les yeux. Le Seigneur dit, je viens bientôt. L'Église dit, amen, viens Seigneur Jésus. On est à bout touchant. Nos regards, on peut dire, se croisent. Nous voyons le Seigneur qui vient d'un moment à l'autre. La rencontre va se passer. L'effet qui est donné, nous continuons, 64, verset 64, elle descendit de dessus le chameau. Nous voyons plusieurs femmes qui ont cette attitude, qui descendent de leur monture pour montrer en fait une soumission toute particulière à celui au devant de quel elle va. Rebecca montre sa soumission à l'égard de Isaac. De même, l'Église, toujours plus, parce que nos regards se croisent, nous nous mettons dans la position de la soumission au Seigneur, à notre Seigneur. D'autant plus que nous voyons que la rencontre va avoir lieu, d'autant plus nous devons nous soumettre au Seigneur. Avoir ce profond respect de notre Seigneur. Et cela passe aussi par nos expressions verbales. On entend beaucoup dans la chrétienté évangélique, en particulier le nom de Jésus. Et puis, il est prononcé avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de ferveur. Mais n'oublions jamais que Jésus, c'est le Seigneur. C'est notre Sauveur, ce n'est pas un copain, quelqu'un que l'on peut comme ça considérer comme étant notre, voilà, à notre niveau. Jésus, Seigneur Jésus. Ce profond respect que nous devons entretenir dans nos pensées et lorsque nous entendons parler peut-être un peu légèrement à notre esprit de Jésus, eh bien, pensons toujours, c'est notre Seigneur Jésus à qui nous devons tout respect parce qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur. Alors donc, elle descend de dessus le chameau. Verset 65, au verset 65, à la fin du verset 65, lorsqu'elle apprend que c'est son Seigneur, donc Isaac, elle prit son voile et se couvrit. Le voile n'a pas toujours la même signification dans nos pays et aujourd'hui. Mais dans la parole, quand il est parlé du voile, dans son sens, dans le mot original, il s'agit de ce qui voile la face. Ce n'est pas ce qui couvre la tête. Et dans 1 Corinthiens 11, il est parlé aussi du voile. Une femme qui a une longue chevelure, elle l'a en guise de voile. Il s'agit du mot qui veut parler de la face, le visage qui est caché. Il ne s'agit pas du tout d'une tête couverte, c'est une autre chose. Alors pour illustrer ce voile dans ce mot qui est donné ici, on peut lire dans le Cantique des Cantiques, où il est parlé avec le même mot, le voile, au chapitre 4, Cantique des Cantiques au chapitre 4. Je peux lire le premier verset. Voici, tu es belle, mon amie. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Donc on voit bien qu'il s'agit de quelque chose qui couvre la face. Les yeux sont, on peut dire, derrière le voile. Ces yeux qui parlent de tout ce que les sentiments peuvent exprimer uniquement par les yeux. Et puis, un peu plus loin, au verset 3, au milieu du verset, ta joue est comme un quartier de grenade derrière ton voile. De nouveau, le mot « le voile » est placé comme quelque chose qui est devant la figure et qui masque quelque chose qui concerne la beauté est souvent la manière affectueuse que l'on peut manifester en embrassant sur la joue, nous parle de cette beauté qui est masquée par le voile. Eh bien, c'est ce que l'Église est appelée à faire, c'est ce que fait Rebecca. Elle se cache derrière son voile pour que sa beauté ne soit visible que par son mari, son futur mari. Et c'est ce que l'Église doit faire aussi. Sa beauté, elle ne doit pas être visible par des étrangers, par le monde en particulier. L'Église, sa beauté, elle doit être réservée pour Christ, pour le Seigneur. Et c'est aussi quelque chose qui doit nous exercer, c'est que l'Église n'est pas appelée à se pavaner devant le monde, à se montrer. Et là encore, le christianisme a malheureusement bien dévié de la pensée de Dieu à l'égard de la position de l'Église dans ce monde. Elle se montre dans le monde. Eh bien, ce n'est pas ce qui est demandé. L'assemblée, l'expression de l'Église n'est pas là pour se pavaner, pour se montrer aux yeux du monde. Elle garde sa beauté pour le Seigneur. Ce qui n'a rien à voir avec le témoignage que chaque croyant doit avoir individuellement, bien sûr, et le témoignage local. Mais voilà, il y a cette beauté qui est réservée pour le Seigneur. Alors la rencontre a lieu et nous avons lu, elle fut sa femme et il l'aima. C'est lorsque cette rencontre a lieu qu'il est spécifié, il l'aima. Alors si on fait le parallèle, l'Église, elle est aimée bien avant cette rencontre, puisque elle était élue avant la création. Christ aimait l'assemblée, il a aimé l'assemblée, il s'est livré lui-même pour elle. Donc cet amour, il l'a de tout temps, de toute éternité pour l'Église. Mais l'Église a-t-elle vraiment réalisé à quel point cet amour le Seigneur a pour elle? Nous connaissons bien nos limites. Nous sommes heureux de pouvoir entrer un peu dans la compréhension de l'amour du Seigneur Jésus pour son Église, pour chacun de nous. Mais lorsque nous serons avec lui, lorsque nous le verrons face à face, nous lui parlerons, alors nous aurons une pleine, entière compréhension de l'amour qu'il a eu pour nous, de l'amour qu'il a pour nous. Et c'est là que le sens « il l'aima » prend toute sa signification. Bien sûr que Christ a aimé l'assemblée bien avant que l'assemblée le réalise, mais le moment où où le réaliserons pleinement, où cet amour sera manifesté parfaitement dans nos cœurs, eh bien c'est au moment où nous le verrons. Étant fait semblable à lui, étant glorifié devant lui, nous comprendrons parfaitement cet amour qu'il a eu pour nous, qu'il a pour son Église. Alors quel triomphe, on peut dire, quel résultat de cette rencontre. De nouveau, nous nous plaçons devant ce moment où nous le verrons. Il vient nous prendre dans la nuée, nous nous rencontrons avec lui et nous réalisons un amour infini qui serait dans l'état de nos cœurs, dans l'état de notre être, première création, serait insupportable aujourd'hui. Nous avons besoin d'être transformés à son image pour pouvoir vraiment supporter un amour aussi infini, aussi grand. Il l'aime. Alors voilà donc deux exemples, deux caractéristiques de cette rencontre. Même nature et un amour infini qui est pleinement partagé, pleinement réalisé. Une troisième caractéristique, on peut la lire alors dans les Épîtres, dans l'Épître aux Éphésiens. Nous revenons à Éphésiens 5. Et on a un autre aspect qui sera révélé à ce moment-là. Éphésiens 5, et nous pouvons lire au verset 27, précédé du milieu du verset 25, « Le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, verset 27, « afin que lui se présente à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. » L'amour de Christ est démontré afin qu'il se présente à l'assemblée à lui-même, glorieuse, sans tache. Voilà ce moment de rencontre, au moment où l'Église, on peut dire, est accueillie, est prise dans les bras du Seigneur. Je ne peux pas dire ça vraiment comme ça, mais étant avec lui, en le voyant face à face, l'Église est rendue glorieuse. Glorieuse, ni tache. Il n'y a aucune tache, aucune trace de souillure, parce qu'elle est rendue parfaite à l'image de Christ, semblable à lui. Mais quelle beauté que cette Église, devant son Seigneur, pas un seul péché, pas une seule souillure, plus rien qui marque tellement nos vies et la vie du témoignage sur la terre, plus rien de cela, sans tache, ni ride. Ça fait 2000 ans que l'Église progresse sur cette terre. Il n'y aura aucune trace de vieillissement. Une jeunesse dans toute sa beauté, dans toute sa fraîcheur. Pas de rides. Le Seigneur voit cette merveilleuse épouse qui est là devant elle. Dans cette rencontre, il voit toute cette beauté. Elle est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais plus encore, sainte et irréprochable. Quel qualificatif pour cette Église bien-aimée. Il est digne de cela, notre Seigneur, d'avoir devant lui une épouse qui est aussi glorieuse que lui, aussi belle, aussi parfaite. Et c'est ce moment-là, de cette rencontre, à ce moment-là, que ces choses seront rendues visibles, manifestes, pour lui-même, pour son cœur. La réponse, on peut dire, de l'amour de son cœur. En dernier passage, dernière caractéristique, on peut la lire dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4. C'est le récit, on peut dire, chronologique, historique, de ce qui se passera au moment de la venue du Seigneur. Mais nous lisons d'abord au milieu du verset 17, à la fin du verset 17, « Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ce moment de cette rencontre où l'Église est ravie vers le Seigneur dans les nuées, c'est un moment à partir duquel nous serons toujours avec le Seigneur. Il n'y aura plus comme aujourd'hui des moments où on se sent très proche du Seigneur, et puis il y a d'autres moments, ben, il faut reprendre nos tâches journalières, puis ensuite on a de nouveau un moment où on peut retrouver la communion avec le Seigneur, puis on doit de nouveau retomber dans les affaires de la terre et nos préoccupations. Non, il n'y aura plus tout cela. Nous serons toujours avec le Seigneur. Mais quel moment, lorsque nous serons ainsi, dans cette nuée, dans cette rencontre, qui marquera le moment où nous resterons toujours avec le Seigneur. Il n'y aura plus de retour en arrière. Nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, il vaut la peine de redire en quelques mots en quoi consistera cet événement que nous attendons, l'enlèvement. Alors, il est résumé au verset 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. On a là trois événements qui se passent dans cet enlèvement. Tout d'abord, pour le précéder, le Seigneur lui-même. Il n'envoie pas un ange, ni même un archange. Il vient lui-même. Et voilà quelque chose qui nous montre que lorsqu'il vient nous chercher dans la nuée, c'est lui que nous verrons face à face. Alors, trois événements qui sont donnés ici. Un cri de commandement, premier élément. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement. Ce cri de commandement, c'est celui qui réveille les morts. C'est celui qui a été entendu et qui a ressuscité Lazare. Lazare, le mort, sorti. Le Seigneur avait dit, Lazare, ici, dehors. Et le mort sorti. Cette voix, le mort l'a entendue. C'est un cri de commandement. Et le Seigneur lui-même parle de ce cri qui sera entendu par tous ceux qui ont cru. Tous qui ont cru, même qui sont morts, entendront sa voix et sortiront du tombeau. C'est ce premier élément qui nous est donné ici. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est un élément de cet événement. Le premier élément, c'est les croyants, tous ceux qui ont été endormis par Jésus, entendront cette voix, ce cri de commandement pour sortir et être en même temps transformés, ressuscités. Ensuite, le deuxième point, c'est avec une voix d'archange. Alors, on peut être surpris de ce terme. L'archange, c'est le chef des anges. Et ce n'est pas le chef des anges qui va parler, mais c'est le Seigneur lui-même avec une voix d'archange. Donc avec une voix d'autorité pour ce qui concerne les anges. Mais alors, de qui parle-t-on? Eh bien, quand le Seigneur parle dans une parabole pour dire aux Sadducéens qui niaient la résurrection, il peut dire, dans le ciel, il n'y a ni homme ni femme, mais on est comme des anges dans le ciel. Les croyants dans le ciel sont comme des anges, c'est-à-dire qu'il n'y a ni homme ni femme. Et le chef de ces croyants, c'est Christ. Le chef des anges, c'est l'archange. Alors on peut faire la transition ici, que ceux qui, dont il est parlé ici, avec une voix d'archange, comme chef de ceux qui vont être introduits dans la gloire, eh bien c'est ceux que, qui sont transmués. Ceux qui, nous qui sommes vivants, nous serons tous changés en un clin d'œil. Alors c'est nous, la puissance de Christ, la puissance de, avec cette voix d'archange qui va transformer nos corps en la conformité du corps de sa gloire. Comme vivants, nous allons être transformés pour être ainsi rendus à son image. Et puis, donc ça c'est ce qui est sous-entendu au verset 17, où il est dit « Nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux. » Entre le « nous qui demeurons » et le « nous serons ravis », il y a ce moment où nous sommes tous changés. Ce qui nous est donné dans 1 Corinthiens 15. Alors donc là, cette voix d'archange pour cela. Puis ensuite, le troisième élément de cet événement, avec la trompette de Dieu. Alors la trompette, dans ce cadre-là, il est parlé d'une seule trompette, la trompette, avec la trompette de Dieu, eh bien c'est l'ordre de départ. L'ordre du départ qui était donné à une armée, la trompette sonne et tout le monde part. Eh bien nous partirons tous ensemble. Ceux qui ont été ressuscités, nous qui demeurons, qui avons été changés, nous partirons tous ensemble selon la puissance, la volonté, la trompette de Dieu, l'ordre, la trompette de Dieu. Alors voilà cet magnifique événement que nous attendons d'un moment à l'autre. Et mettons-nous dans cette position, ce moment Christ, où l'Église rejoint Christ, le Seigneur, notre Seigneur. Ce moment où il pourra dire « Elle a la même nature que moi. » Où il pourra être compris de son amour infini qu'il a eu pour elle. Mais quelle joie pour son cœur de enfin trouver un écho complet dans son Église, dans l'amour qu'elle aura réalisé pleinement à ce moment-là. Et puis, cette troisième caractéristique, une beauté magnifique, une pureté, une sainteté irréprochable, glorieuse, sans tache ni ride. Et puis, dès ce moment-là, pour toujours avec le Seigneur. Alors, c'est bien cela qui doit pouvoir nous inviter à réaliser ce que nous avons lu à la fin de notre premier verset dans l'épître de Jean, dans la première épître de Jean. On a lu donc dans ce chapitre 3, on peut relire ce verset au milieu du verset 2, 1 Jean 3 verset 2, « Nous savons que quand il sera manifesté, c'est-à-dire lorsque nous le verrons, lorsque nous serons avec lui, nous lui serons semblables car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. » Voilà la conclusion, on peut dire, si nous sommes ainsi remplis de cette rencontre où nous lui serons semblables, où nous lui parlerons face à face, où nous réaliserons ces caractéristiques seront réalisées, eh bien, nous devons bien revenir sur terre et reprendre en main nos affaires courantes, mais en ayant fait un pas de plus. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Cette purification continuelle dans le chemin pour que nous soyons dignes, on peut dire, de notre Seigneur, pour que nous puissions lui être utiles, étant des vases sanctifiés, purifiés, préparés pour toute bonne œuvre, Il y a tant d'éléments qui nous montrent que le Seigneur peut nous employer dans la mesure où nous sommes purifiés comme lui est pur. Qu'il y ait ainsi cette énergie que le Saint-Esprit peut imprimer en nous après nous être occupés, nous avoir occupés de ce retour du Seigneur où nous le verrons face à face.
versets 2 et 3 du 247.
247, strophe 2 et 3. Dans l'unité, nous verrons ta beauté. Vous pourriez encore chanter la dernière strophe du cantique 110. 110, la dernière strophe.